Méditation biblique au micro Jacques Marchal.
Le Seigneur même, pour ta suprême, le Seigneur même, il est amour. Je veux dire que j'ai le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour.
Chers auditeurs, bonjour. Chapitre 2 et verset 5, la Bible dit « Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Le sacerdoce est un ministère ou un office excessivement ancien qui a été institué par Dieu lui-même très tôt dans l'histoire biblique. Les services que rendait par exemple Melchisédek, sacrificateur de Dieu, se situe dans les tout premiers temps. Citons également Potiphéra, prêtre d'On, et Jéthro, prêtre de Madian, dont on parle déjà dans les livres de la Genèse et de l'Exode. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur ou prêtre jouait en quelque sorte le rôle d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Il invitait le pécheur à revenir vers Dieu et offrait à son égard des sacrifices. Durant l'époque des patriarches, le père de famille réunissait les siens et servait d'officiant pour le culte à Dieu. Abraham, Isaac et Jacob remplirent cette fonction, et la Bible montre que Dieu jetait des regards favorables sur ce genre d'adoration. Mais le temps passa, et ces familles, qui étaient pourtant déjà très grandes, formèrent bientôt de véritables communautés. Les patriarches qui les dirigeaient virent leur autorité s'étendre, jusqu'à faire d'eux des personnalités publiques. Le sacerdoce fut donc réservé à tous ceux qui dirigeaient ces communautés. Après la libération d'Égypte, Israël était devenu une grande nation qui appartenait spécifiquement à Dieu. Et c'est pourquoi il lui donna une loi propre. La nécessité se fit alors sentir de nommer une prêtrise permanente, et la tribu de Lévi fut choisie pour pourvoir au sacerdoce. Il s'agissait là d'une prêtrise d'ordre divin, et personne ne pouvait et n'aurait d'ailleurs osé officier sans avoir été spécialement appelé à cette noble charge. Un roi même aurait risqué sa vie s'il avait pratiqué le ministère de sacrificateur. Pour être prêtre, il fallait remplir certaines conditions, dont la première était de non seulement faire partie de la tribu de Lévi, mais de plus d'appartenir à la famille d'Aaron. Les souverains sacrificateurs eux-mêmes ne pouvaient remplir les devoirs de cette charge sans passer par les rites solennels de l'intronisation. Tous les prêtres devaient se plier à des règles strictes et rigides. Pour devenir sacrificateur, on devait être doté d'une parfaite santé spirituelle et physique et avoir 30 ans. Cet état exigeait en effet un corps vigoureux, une pureté d'âme et de cœur, ainsi qu'une grande maturité d'esprit prédisposant à la sagesse et au sens des responsabilités. Celui qui se laissait séduire par le péché ou l'impureté était aussitôt rejeté sans rémission dans le rang du commun des mortels. La manière de s'habiller distinguait les sacrificateurs du reste des Hébreux et revêtait une signification particulière pour leur travail. L'éphod, par exemple, était une sorte de surplis qui descendait jusqu'aux genoux et qui était tissé de fils d'or, bleu, pourpre et cramoisi. Sur l'ourlet étaient cousues des pierres précieuses alternantes avec des petites clochettes d'or. Aaron portait cette robe et on pouvait l'entendre se déplacer dans le sein du tabernacle. Ce vêtement, quand il était porté par le souverain sacrificateur, protégeait le peuple de la mort. Il s'agissait là, sans aucun doute, d'un symbole préfigurant la justice et la sécurité de la vie éternelle en Christ, comme nous allons le voir dans quelques instants. Aujourd'hui, toutes ces choses ont disparu pour faire place à un culte spirituel, et c'est le Fils de Dieu qui est devenu notre souverain sacrificateur ou grand prêtre. Il l'avait annoncé clairement, en parlant à la femme samaritaine à qui il avait dit « Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Les Israélites étaient heureux et se sentaient protégés par le son des clochettes de l'éphod de leurs prêtres qui étaient en train d'intercéder pour eux auprès de Dieu. De même, nous nous sentons soutenus et défendus par la présence de Jésus dans notre cœur. Dans le passage que nous venons de lire, Pierre déclare que les chrétiens sont les pierres vivantes d'une maison spirituelle, qu'ils représentent un saint sacerdoce et qu'ils doivent maintenant offrir des sacrifices spirituels qui sont agréables à Dieu, grâce bien sûr à Jésus-Christ. Tous les chrétiens sont par conséquent devenus des sacrificateurs, des prêtres aux yeux de Dieu. Ce sont eux qui maintenant occupent la place des prêtres de l'Ancien Testament, et c'est Christ qui est leur grand prêtre. En Hébreux, au chapitre 7, l'apôtre Paul met précisément l'accent sur ce point. Jésus, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais voyons cela d'un peu plus près. Cet homme, dont on parle en réalité très peu dans la Bible, réunit deux fonctions, celle de la royauté et du sacerdoce. Cela n'arrivait jamais dans le judaïsme, et c'est pourquoi on peut affirmer que cet ordre va bien au-delà du ministère réservé aux Lévites. Bien longtemps avant la naissance de Lévi, vivait un homme du nom de Melchisédek. Il rencontra le patriarche Abraham qui revenait d'une expédition punitive contre certains rois. Et on le voit exercer les fonctions de sacrificateur quand il bénit Abraham et lui apporte du pain et du vin. De son côté, Abraham lui paye tribut sur tout ce qu'il possède. En réfutant l'arrogance et les prétentions des Israélites qui se réclament de l'excellence du sacerdoce lévitique, Paul leur fait toucher du doigt le fait qu'Abraham, le père des Juifs, avait bien payé la dîme à Melchisédek. Il leur dit également que ce sacrificateur est, en ce qui concerne son ministère, sans généalogie, qu'il n'a ni commencement, ni beau jour, ni fin de vie, et démontre que personne n'a jamais occupé une telle position. La raison pour laquelle Paul parle avec tant de force et de persuasion de Melchisédek est tout simplement de prouver que ce prêtre était le type parfait ou la préfiguration du sacerdoce éternel et divin de Christ. Il montre bien que Lévi n'était pas encore né et que Melchisédek avait vécu bien avant l'établissement du sacerdoce lévitique et que par conséquent, l'autorité de Christ irait bien au-delà de ce sacerdoce puisqu'il prouvait sans conteste qu'il était le grand prêtre de son Église. Toujours dans le même chapitre, l'apôtre révèle que David, 1000 ans plus tard, cite Melchisédek et prédit que le Messie deviendra le souverain sacrificateur après lui. Le prophète Zacharie soutient la même chose en disant « Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union » régnera entre lui et l'autre. Il n'est un doute pour personne que Christ est l'accomplissement de cette prophétie. Il suffit d'ailleurs de lire 1 Timothée chapitre 6 et verset 16 pour en être parfaitement convaincu. Après sa résurrection, il est monté aux cieux, près de son Père, où il occupe le trône de son royaume et remplit à la fois le rôle de souverain sacrificateur et de monarque absolu. L'apôtre Pierre, inspiré par l'Esprit Saint, affirme la royauté de Christ ressuscité. Quand il dit, comme il était prophète, il s'agit ici bien sûr de David, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dans l'Ancien Testament, seul le grand prêtre pouvait entrer dans le Saint des Saints. Seul lui pouvait offrir les sacrifices annuels du sang. Maintenant, sous le Nouveau Testament, c'est Jésus, notre Seigneur, qui est entré dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans le ciel. Il l'a fait une fois pour toutes et a offert son propre sang pour le péché du monde entier. Sans son sang, dites-vous bien que vous êtes perdus. Personne n'est aussi grand, aussi parfait que celui qui sert d'unique médiateur entre l'offensé et l'offenseur. Personne sauf lui ne peut se tenir tout seul devant le trône de Dieu. Mais nous, les pauvres misérables créatures, qui sommes-nous donc pour faire semblant d'ignorer les offres de l'amour et de la miséricorde du Créateur dont on essaye de nous faire profiter par son Fils? Il n'y a que lui qui puisse intercéder pour nous auprès de Dieu. Et pourtant, comment le traitons-nous? C'est une véritable folie que de penser qu'un homme peut aujourd'hui servir de souverain sacrificateur aux enfants de Dieu. Ces soi-disant intercessions par le canal d'êtres mortels sont autant de blasphèmes contre Dieu et ne constituent ni plus ni moins qu'un reniement du sacerdoce et de la royauté de Christ. Écoutons ensemble le Seigneur lui-même nous dire en Matthieu chapitre 23, du verset 1 au verset 9. Ils font tous leurs actions de grâce pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et le premier siège dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler « Rabbi », car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler « directeur », car un seul est votre directeur, le Christ. Non, personne dans l'Église du Seigneur n'occupe une plus haute position que le plus humble des enfants de Dieu. Tous les chrétiens sont des sacrificateurs, et tous doivent lui offrir des sacrifices et des services spirituels. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs étaient des gens qui étaient consacrés pour ce genre de fonction, mais aucun d'entre eux ne pouvait remplir les fonctions de souverain sacrificateur, qui lui seul possédait aux offrandes et aux sacrifices. Les prêtres purifiaient la cour, aspergeaient de sang l'autel et assistaient aux différents services religieux qui avaient lieu dans le tabernacle. Mais jamais ils ne faisaient le travail de grands prêtres. Dans le Nouveau Testament, tous les chrétiens sont des sacrificateurs et aucun titre autre que celui de chrétien ne doit leur être attribué. Ils rendent leur culte d'adoration à Dieu par l'intermédiaire de son Fils, qui est le souverain sacrificateur.
Entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie. Gratuitement en tant qu'un, nous n'avons absolument rien à vendre.
Le Seigneur même, Père suprême, le Seigneur même, il est amour. Je me dirai toujours le Seigneur même, il est amour.
Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Au revoir, que le Seigneur vous garde et à lundi prochain, même heure.
Le Seigneur même, Père suprême, le Seigneur même, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, Agneau de Dieu. Je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même.